Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Circa, il est 19h. Nous sommes ce soir en présence de José et Anne pour notre désormais célèbre rendez-vous de la carte blanche. Bonsoir, ce soir, bonsoir José, bonsoir Anne.
Bonsoir Marc.
Ce soir, notre invité, Christophe Blandin-Estourné, président du festival Circa, enfin de l'association Circa qui regroupe le festival Circa, bien entendu. Et le projet du CIRC, Centre d'innovation et de recherche circassienne, qui est aussi la saison culturelle sur la ville d'Auch, bien entendu.
Absolument, bonsoir à tous.
Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir, Christophe. Donc peut-être juste en quelques mots, résumer un petit peu ton parcours. Alors moi je suis assez touché d'être là avec toi ce soir parce que je te connais un petit peu plus personnellement pour de multiples raisons. Donc Christophe, entre autres, dans les choses que je sais que tu as fait, tu as été secrétaire général de l'ONDA, qui est l'Office National de Diffusion Artistique. Tu as été intervenant au Centre National des Arts du Cirque. Tu as été mon enseignant en économie-gestion auprès des étudiants artistes. Tu as aussi été directeur de la programmation Cirque Art de la Rue à l'établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette. Et puis aujourd'hui, tu t'occupes donc des excentriques en région centre. Voilà, un beau parcours, tu as occupé des postes relativement importants et pour autant, quand on te connaît, tu sais rester simple. Juste peut-être une petite question pour commencer, toi qui es présent sur Circa justement en tant que président de circuit, tu as des responsabilités et en même temps tu es là plutôt de manière détendue. Comment tu vis cette semaine du festival, toi ?
Bah, je la vis forcément de manière détendue parce que... Déjà, quand je suis ici, je suis en vacances juridiquement, c'est-à-dire que je me mets en congé de mon activité de responsable culturel, et puis détendu parce que c'est toujours un plaisir de retrouver les gens qui mènent cette aventure, en premier lieu les bénévoles et l'équipe permanente, et puis détendu parce que je retrouve le cirque qui est une vraie rencontre dans ma vie de dans ma vie d'homme et puis dans ma vie de professionnel, et puis détendu parce que ça me fait un prétexte pour revenir dans le sud-ouest qui est ma terre d'origine et qui est chère à mon cœur, même si je ne suis pas occitan mais albigeois. Et puis enfin détendu parce qu'il y a une particularité pour moi au cirque, c'est que à la différence d'autres familles comme le théâtre, la danse ou le cinéma, je trouve que malgré les évolutions, il y a quelque chose d'un vrai esprit de famille dans le cirque, et que je retrouve ou je revois de loin en loin ou plus régulièrement des équipes artistiques avec qui j'ai pu travailler ou que j'ai pu côtoyer, et que ça se fait avec une vraie simplicité, et que j'aime, et je crois que ça c'est dû à une chose qui m'est chère à titre personnel, c'est le rapport au travail.
Est-ce que tu voudrais dire que les circassiens sont plus simples que les danseurs et les comédiens ?
Je pense que quand on est confronté au quotidien dans sa pratique, à un rapport au travail fort, qui s'incarne pour le coup véritablement, du coup ça donne un autre rapport et peut-être une humilité au départ qui laisse cette accessibilité, et que je suis sensible à ça. Après j'ai des amis danseurs, j'ai des amis dans le théâtre, mais il y a quelque chose de l'ordre de la famille dans le cirque que dans lequel je me sens bien.
Alors Christophe, une expérience à Paris, à la Villette, dans un lieu quand même tout à fait symbolique de la culture contemporaine. Alors c'est une question que je me suis toujours posée. Comment était ressenti le cirque parmi vos collègues d'autres départements, puisqu'il y a tout le monde là-bas, à la Villette, il y a beaucoup de monde. On voit que le cirque, il a son espace, et puis les autres ont les leurs. Alors, comment ça se passait, les rapports ?
C'est des questions que je me suis peu posées sur le coup, et sur lesquelles je porte un regard a posteriori. Par exemple, il se trouve que j'ai dirigé encore avant... Marc a épargné ma longue carrière de vieux monsieur, mais j'ai dirigé avant un lieu qui s'appelle le Centre National du Théâtre, et qu'à un moment, pour des raisons de choix, j'ai fait le choix de quitter le Centre National du Théâtre et j'ai rejoint le Centre National des Arts du Cirque. Et à l'époque, je me souviens d'un certain nombre de collègues qui m'avaient interpellé en me disant mais tu es sûr de ce que tu fais là, maintenant tu devrais prétendre à la direction d'un lieu. et j'avais expliqué que j'avais quelque chose qui m'attirait du côté du cirque, que j'avais envie d'aller, de mener cette expérience-là. Et à la Villette, il y a des choses aussi de cet ordre-là qui se sont jouées. La question, je me la suis toujours posée dans mes engagements professionnels, culturels, militants. Je me la suis toujours posée sur savoir est-ce que ce que j'avais envie de défendre avait une pertinence dans le contexte dans lequel j'étais. Et du coup, j'ai toujours défendu ça avec beaucoup d'énergie. Et peut-être que je me suis pas trop posé la question. C'est vrai qu'à posteriori, je me rends compte que ma légitimité construite, supposée, hein, ma légitimité construite dans le monde du théâtre et de la danse faisait qu'on me regardait avec j'avais droit à un peu de tolérance pour dire voilà que j'allais un peu m'égarer du côté du cirque, de la rue, de la marionnette, du cabaret. Mais comme j'avais fait mes preuves dans la danse et le théâtre, voilà, c'était pas plus grave que ça. Et puis j'avais été secrétaire général de l'ONDA, donc il y avait des choses comme ça. Mais c'est une aventure que, enfin, c'est, je sais pas, je dois être un peu compulsif comme tout le monde, et du coup j'ai l'impression qu'avec Excentrique c'est un peu la même chose que j'ai reproduit, c'est-à-dire que il y a plein de gens qui, quand j'ai quitté la Villette pour aller construire le projet Excentrique, qui m'ont regardé avec beaucoup de sympathie, parce que la Villette, son narcissisme débridé, c'est un lieu repéré, identifié, et qui, quand j'ai expliqué le projet Excentrique, il y a des gens qui j'ai proposé, les professionnels, à qui j'ai proposé de venir travailler avec moi sur le projet, qui m'ont expliqué que c'était un peu compliqué, et puis pour dire un peu simplement, c'est vas-y, monte le truc, puis si ça marche, on verra, on viendra. En même temps, on ne voit pas trop où tu vas avec tes histoires de projets de population et de territoire. Et puis voilà, ça se fait. Mais la question, je ne me la pose pas. Voilà, je me la pose en termes d'engagement et de... Ouais, je crois que j'ai toujours été sur des engagements. C'est banal, hein.
Et du coup, peut-être juste avant d'écouter un morceau de musique que tu as choisi, parce que l'idée c'est quand même une carte blanche, c'est de te découvrir en dehors aussi peut-être de ton activité professionnelle, non pas que ton parcours ne soit pas intéressant, juste en deux mots, parce que tu as parlé de grandes institutions, puis tu parles des Excentriques, mais ça a l'air d'être un projet, tu parles de population, donc on aimerait bien savoir en quelques mots, hein, quel est le projet des Excentriques.
Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une période de profond changement en termes de société, en termes politiques, et que la question aujourd'hui qui se pose, c'est comment on est dans des nouveaux rapports au savoir, au sensible, à l'intelligence partagée. On a eu l'occasion d'évoquer, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens de Radio Circa, d'un auteur qui m'est cher, qui s'appelle Jacques Rancière. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un rapport au pouvoir qu'il faut fondamentalement repositionner, redéfinir. Quand je dis fondamentalement, c'est pas faire table rase. Et que du coup, le projet Excentrique, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai éprouvé, alors que j'étais dans un lieu formidable à la Villette, j'ai éprouvé le besoin d'aller sur un territoire pour être sur une plus grande proximité. Et l'anecdote, parce que c'est peut-être plus intéressant de parler de mes projets, l'anecdote pour moi qui a déclenché ça, c'était un jour à la Villette, on a fait la fête de la musique. Et comme la fête de la musique, vous savez, en général, il pleut. Et donc, au lieu de faire la fête de la musique dehors, on a fait dans la grande halle, on a ouvert. Donc, 17 000 personnes peuvent rentrer, la grande halle. Lieu qui n'est pas un lieu impressionnant a priori, c'est un ancien abattoir, mais qui est très ouvert. On avait ouvert la grande porte du péristyle, 40 mètres d'ouverture. Fait de la musique, c'est gratuit. Et puis ce jour-là, les gens du quartier, ils arrivaient, alors qu'ils viennent tous les jours sur le parc. Ils viennent promener les enfants, ils viennent sortir le chien, ils viennent faire leur gym. Et là, ils arrivaient à l'entrée de la grande halle. C'était gratuit, c'était ouvert, ils ne rentraient pas. Les seuls qui rentraient, c'est quand un gamin s'échappait, ils allaient le chercher. Et elle a, dans cet endroit formidable, et j'ai adoré ce que j'ai fait à la Villette, et je le revendique avec beaucoup de fierté et de plaisir, là j'ai eu le sentiment que j'étais au bout d'un truc qu'il fallait un peu retenter des choses. Et c'est le moment où je suis parti sur ce projet d'Excentrique, en disant posons un projet de territoire, posons un projet de population, et avec tout le respect et la passion que j'ai pour l'art, où l'art est un prétexte, et c'est noble, un prétexte à travailler sur ce rapport aux gens. Et pour moi, ça renvoie à toutes ces questions de rapport au sensible, de rapport au savoir, et de comment on redéfinit, on retravaille en permanence les rapports humains.
Alors on va écouter les clashs. Alors pourquoi, Christophe, les clashs? C'est un souvenir ancien, plus récent.
Parce que j'ai eu la chance. J'ai pas franchement connu. À partir de 76, 77, j'ai pas découvert immédiatement la vague punk, mais avant la fin des années 70, c'est une vague qui m'a touché. J'ai pas du tout été punk dans le look, mais c'est une musique que j'ai beaucoup aimée. Pourquoi ? Parce que pour faire référence, allez, puisqu'on est dans la carte blanche, pour faire référence à des gens qui m'ont marqué comme Bourdieu ou Bernard Lahire maintenant, moi je suis sociologiquement, socialement, je suis un illégitime de la culture. J'ai pas vocation, j'avais pas socialement et familialement vocation à exercer les fonctions que j'exerce aujourd'hui. Il se trouve que j'ai découvert un peu, j'ai pu m'investir dans la culture de manière alternative. C'est parce qu'à Lyon, dans les années 70, où je faisais mes études, il y a eu une scène rock très alternative. Et que c'est par cette scène rock alternative que j'ai commencé à rentrer, à découvrir la danse, etc. Et donc la musique et la musique rock qui m'a définitivement marqué à participer de ça. Voilà, et dans ces mouvements, et puis les Clash, moi, il y a une clé de lecture qu'on verra tout à l'heure là. Parce que j'aimerais aussi qu'on écoute Joe Strummer en fin de vie. Et les Clash, moi, c'est une musique qui m'a marqué, comme Lou Reed, comme Bowie, comme Hip Hop et comme plein d'autres.
Très bien. Voilà, donc c'était les Clash. Christophe, en deux mots, quand tu écoutes ce morceau, qu'est-ce que ça t'évoque ? Parce que tu nous as expliqué le pourquoi de ce choix-là, mais qu'est-ce que ça t'évoque ?
Ça m'évoque... désolé de la banalité pour les auditeurs. Ça m'évoque mes 15-20 ans. Ça m'évoque comment des amitiés se sont forgées à l'époque, un peu indéfectibles. Ça m'évoque comment... comment à l'époque un truc qui s'appelait le Palais d'Hiver à Lyon, on avait repéré l'issue de secours qui était la moins gardée et comment on a pu rentrer quelques fois. Ça m'évoque comment à Gerland, quand on allait, quand on sautait la barrière là aussi, je savais ce que c'était courir vite, parce que... Et puis ça m'évoque des moments d'émotion, de découverte, et puis une manière de dire une envie de vivre sur l'énergie. Je crois que Marc, tu disais qu'on se connaît. Je pense que je suis d'apparence très, très calme et apaisé, mais je crois que je resterai toujours... Parce que je pense que la révolte, c'est pas celle qui s'exprime le plus bruyamment, le plus violemment. Mais je resterai toujours... Alors c'est banal de le dire maintenant, mais je crois que j'ai une capacité d'indignation qui a du mal à s'éteindre. C'est pas forcément plus glorieux, plus intéressant que ça, mais du coup, c'était aussi ça que ça traduisait.
D'accord, en tout cas c'est intéressant. S'il y a des artistes ou des compagnies qui écoutent, tu as démystifié le personnage hautement important dans les arts du cirque, et en même temps c'est plutôt sympa.
Tu sais, on parlait de Jacques Rancière tout à l'heure, il a une expression où il dit, c'est un peu qui traduit un peu son travail, où il dit qu'il faut parier sur l'égalité des intelligences. Voilà, moi j'ai une autre expérience, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il se trouve que j'ai travaillé, parce que c'est un choix de vie que j'ai fait aussi, et je travaillais pendant 10 ans en prison. Et du coup, s'il y a une chose que j'ai retenue, j'étais personnel pénitentiaire, j'étais conseiller de probation et d'insertion, et s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est la relativité, et quand je dis la relativité, c'est simplement que qui que l'on soit, quoi que l'on fasse, on n'est jamais qu'un humain face à un autre humain, et sans démagogie égalitariste à deux balles, sans simplement, il y a des manières de s'adresser aux gens, voilà, qui sont des minimums syndicaux.
Christophe Blandin est tourné. Être ado à Lyon, c'est bien d'être adolescent à Lyon ?
Dans les années 70.
Dans les années 70 ?
Moi, je crois que j'ai...
Vous êtes un urbain, hein, quand même.
Non, parce que je viens quand même du Tarn. Et, moi, je suis originaire d'à côté d'Albi. C'est devenu un bourg maintenant, mais c'était un village à l'époque qui s'appelait Arthès. Et donc, j'ai vécu les deux. Mais... moi je crois que j'ai une vraie difficulté dans la vie, mais je m'y résous. C'est que je crois que je suis tombé dans le bonheur quand j'étais petit, c'est à dire que fondamentalement j'aime la vie et j'aime ce qui s'y passe, et quand je dis ça, c'est autant dans de la jubilation que dans de l'énervement, c'est autant dans du plaisir que dans de l'ennui. Je crois que c'est une chose formidable qu'est la vie, et que j'ai eu la chance de rencontrer, de faire des tas de choses, et que ado ou adulte, c'est quand même une putain de belle chose que la vie.
Ah oui, ça donne envie aussi d'aller vers les autres. C'est ce que quand vous parliez de votre expérience de prison, c'était un petit peu cela également.
Oui, je pense que la question de l'altérité, c'est quelque chose qui m'habite fondamentalement, mais j'ai eu la chance d'être élevé là-dedans sur des sans... Je pense que je me suis longtemps posé de questions par rapport à des copains qui ont eu des éducations plus classiques ou plus bourgeoises, et avec qui je m'entendais très bien. Je me suis longtemps posé la question de dire, si j'avais une éducation plus classique, ce que ce serait passé. Et en même temps, je me rends compte que j'ai été élevé dans des valeurs qui n'ont jamais été posées comme des valeurs. C'était des évidences. Et que tout d'un coup, ça donne un rapport un peu tranquille. C'est-à-dire qu'on se pose pas la question de... Il n'y a pas une obsession comme ça de l'attention à l'autre. C'est juste un fait, et on le pose pas, on le vit. Et je suis très, très redevable aux miens. Je pense qu'il faut savoir d'où on vient, vraiment. Là aussi, pour encore un lieu commun, mais... Savoir où on va, souviens-toi d'où tu viens, mais je crois que la construction, elle se fait là. Donc l'altérité, c'est une nécessité. Ben sinon, je pense que la vie m'intéresserait pas trop.
Et du coup, tu dis si j'avais eu une éducation peut-être plus classique. Tout à l'heure, t'as dit que le milieu duquel tu étais issu ne te prédestinait pas forcément à occuper les postes que tu as occupés finalement dans ta carrière. Quel est ce milieu, quoi ? Tu viens d'où ? Que faisaient tes parents ? Enfin, je sais pas. C'est...
Oui, très simplement, je viens d'un milieu modeste, je viens d'un milieu ouvrier, avec des parents qui ont un peu gravi des échelons. J'ai des souvenirs d'aller chercher, de souvenirs d'enfants, d'aller attendre mon grand-père à la sortie de l'usine, qui était à côté d'Albi. Et de savoir ce que c'est une double journée, c'est-à-dire une fois qu'on a travaillé à l'usine, on va travailler au champ l'après-midi, enfin en fin d'après-midi. J'ai dû aller, je sais pas, jusqu'à l'âge de 20 ans, hormis les concerts donc de rock, mais j'ai dû aller, je sais pas, deux ou trois fois au théâtre, et c'était avec le lycée. En même temps, c'est pas Zola, hein, on va pas pleurer sur mon sort, hein, c'est juste, voilà, c'est un milieu modeste, et puis. Mais où le rapport à la culture n'était pas posé. Enfin, moi, je sais pas ce que c'est que d'être abonné à Télérama ou d'avoir fréquenté les réseaux éduc-pop. Voilà, je me suis fait comme ça. Et puis...
Je sais que je suis de la même génération que vous, Christophe. Et c'est vrai que dans ces années 70, en fait, on a le sentiment que le brassage était possible, tout était possible. Le phénomène rock, les phénomènes de jeunesse a fédéré. Vraiment, ça a été une grande transversale. En fait, tout le monde se retrouvait. Vous n'avez pas eu cette impression ?
Mais oui et non en même temps, parce que. Oui, parce que à travers des choses transversales, le rock ou l'engagement militant ou des choses comme ça, on se retrouvait. Je pense que sur la longue durée, moi je suis un peu un pur et dur de sociologie à la Bourdieu, c'est-à-dire que ou à la Weber. Moi je pense qu'il y a des rapports de dominant-dominé, qu'on les résoudra jamais, que certains à la marge passent du rapport de dominant à dominé et d'autres de dominé à dominant. Et que ma responsabilité, mon engagement, c'est de se dire comment on atténue au maximum ces effets-là, parce que fondamentalement, ces rapports, on n'arrivera pas à les résoudre. Donc, du coup, l'intérêt d'être en vigilance permanente et en indignation permanente sur ces rapports-là.
Le mouvement des indignés, ça vous interpelle?
Oui, mais pas à plein de titres. Moi, je suis pas sûr que je sois d'accord avec tout ce qu'ils disent. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a de l'indignation. Donc ça, je trouve ça bien. Ce qui m'interroge, c'est de dire que c'est une indignation un peu éruptive, et que du coup, mais c'est à l'image de nos sociétés. Moi, je pense qu'on est à un moment à la fin d'une société de la fragmentation, et que du coup, comment ça s'inscrit, comment ça se construit. Voilà, là j'ai plus de doutes et dubitatifs, mais ils ont a priori ma sympathie parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a de l'envie, parce qu'il y a du mécontentement, et que ça c'est nécessaire.
On va peut-être faire une nouvelle pause musicale, vous présenter le prochain morceau.
Le prochain morceau c'est Brassens, qui est bah, puisqu'on parlait des origines, quand j'étais gamin, chez nous, il y avait cinq disques. Il y avait un disque des Platters. Il y avait un disque d'une chanteuse qui s'appelait Marie-Josée Natt. Je sais pas ce qu'elle est devenue.
C'est une comédienne aussi.
C'est vrai. Marie-Josée Neuville, pardon. Non, ah Neuville, oui. Neuville. Il y avait la 9e de Beethoven. Et il y avait deux disques de Brassens que ma mère écoutait en permanence. Et donc ça fait partie de la toile de fond, et Brassens a été repris par un groupe que j'aime bien, c'est les Musiques à Ouïr, et donc un album qui s'appelle Étranger Familier, et j'aime bien le principe des reprises. Ça, c'est un truc que j'ai toujours été fan. J'ai fait de la radio à l'époque où elles étaient interdites ou alternatives, quelques émissions, et j'adorais les reprises. C'est un truc, voilà, ça m'intéresse de manière de revisiter le patrimoine. Et là on va écouter Les Belles Passantes. Parce que c'est une manière de dire à plein de gens qu'on rencontre à quel point on aurait aimé mieux les rencontrer.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, celle qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui reste s'évanouit. Maison la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la campagne de voyage dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin qu'on qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main à celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent. Vous ont inutile folie laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare que l'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, fantôme du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Les passantes avec cette reprise magnifique. Dans le mot passante, il y a le mot passage. Et là, c'est vraiment tout un symbole.
Oui, oui, je pense qu'on a une responsabilité, au moins un souci, une vraie préoccupation de passer. Il y a un chanteur que j'aurais pu proposer ce soir, que j'aime bien, qui s'appelle Richard Desjardins, québécois, et Richard Desjardins, il disait un truc, il disait, mais tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, le soir, si tu l'as pas donné, ben, ça changera pas ta vie. Si tu l'as donné, ça la changera pas non plus, mais ça changera peut-être celle de l'autre. Ben, je crois que c'est ça, voilà, tout ce qu'on a, je pense que la question du savoir et de la connaissance, pour moi, c'est dans le partage qu'elle fait sens.
Anne.
Oui, on a parlé justement d'où tu viens et de tes expériences multiples et variées. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sujets qui te préoccupent plus particulièrement, qui te font vibrer, qui te mettent en colère, qui te donnent envie?
Le monde et la vie me font vibrer. Du coup, je me sens toujours concerné par ce qui se passe. À la fois un vrai, comment, non, le mot est maladroit, j'allais dire un vrai plaisir, mais de voir ce qui se passe avec le mouvement du printemps arabe, c'est-à-dire comment à un moment des gens se saisissent de leurs responsabilités, de leur pouvoir, pour mettre un terme à des dictatures, et en même temps la lucidité. Je parlais tout à l'heure de mon expérience, fait d'avoir travaillé en prison, de l'expérience que ça m'a donné. À un moment, c'est aussi une lucidité, c'est-à-dire que dès qu'une chose s'instaure, elle génère les limites et ses propres échecs partiels, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut le faire en lucidité. Et là, et, Et moi, je suis pas sur une lucidité amère et un peu cynique d'abandonner le combat. C'est une lucidité de se dire, oui, dans ce que je suis, ce sur quoi je suis en train de me battre aujourd'hui, et d'autres de manière beaucoup plus spectaculaire et exemplaire, ce sur quoi on est en train de se battre, en même temps, on est en train de générer les limites pour partie. Et ben, c'est pas grave, on continue. Il faut le réinterroger en permanence.
Les artistes aujourd'hui sont toujours vecteurs justement de messages et c'est pas forcément un pouvoir, mais c'est également quelque chose d'extrêmement important d'avoir un monde artistique qui soit bouillonnant et qui soit présent et dans son monde.
Mais moi je suis, Dieu sait que je pense être engagé et assez convaincu et défendre la chose artistique, et en même temps je trouve que c'est important de ramener un peu... J'ai envie de faire un éloge de la banalité, non pas au sens où François Hollande peut prétendre être un homme ordinaire ou simple, je ne sais plus le terme qu'il a utilisé, mais au sens où ce que j'attends de l'artiste, c'est qu'il me donne un point de vue différent sur le monde. Comme le philosophe, en gros le poète et le philosophe sont les deux qui peuvent me donner un point de vue différent, qui sont des alternatives à une lecture rationnelle. Mais pour autant, ce sont avant tout, et ça reste... des gens et des citoyens. Et il n'y a pas une espèce d'idéalisation du j'attends pas des artistes qui me disent comment vivre le monde. J'attends d'eux qui me permettent, comme d'autres, mais pas de regarder un peu différemment le monde, en me disant que eux sont aussi à un endroit de citoyenneté et que par moment cette dimension est aussi importante que la dimension de l'artiste.
Exemple dans l'histoire récente, on se rappelle tous de Fela. Fela, c'était un chanteur extrêmement important pour l'ensemble du continent africain. L'exemple même d'un artiste qui peut faire évoluer, faire bouger les choses. Ou même Bob Marley, également, bien sûr, si on va de l'autre côté, en Amérique.
Oui, mais plus globalement, moi j'aime bien cette définition que je propose souvent, c'est de dire la culture, c'est ce qui nous rassemble. La culture, c'est ce qui fait qu'on a des choses en commun, le fait qu'on peut vivre ensemble, que ce soit sur des manières de se déplacer, de se nourrir, de penser, etc. À un moment, la culture, c'est l'art, c'est ce qui vient à un moment nous proposer un petit décalage sur cette manière de vivre. Et après, notre responsabilité humaine, c'est comment, fort de d'où on vient, on se laisse une capacité de négociation. Capacité de négociation, d'une manière un peu théorique, mais ça veut dire que comment, à un moment, je suis pétri de mes origines, pétri de toute mon expérience, et je laisse de la place à de la nouveauté. Et donc, je laisse de la place à l'autre. Mais je demande à l'autre d'être dans cette même démarche-là. Et donc, du coup, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se négocie, ça se travaille là. Parce que c'est dans cet échange-là qu'on avancera. Ça évitera une posture un peu statique.
La difficulté aussi, c'est d'éviter on ne peut pas parler de récupération, mais souvent de retomber dans une espèce de machine qui finit également par un petit peu nous broyer, notamment la création artistique. Ça, c'est aussi très difficile d'y échapper. On y arrive pourtant. Pas certains y arrivent.
Je pense que c'est un truc qui s'appelle le talent, que c'est ça, la force de l'art. Qu'à un moment, ça révèle des manières.
Mais...
Oui, mais je... Moi, je suis toujours un peu gêné avec la position. Quand je disais les choses sont plus nuancées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Le système est à côté, il n'y a pas le bon, le méchant, les choses sont plus nuancées. Et ce qui est intéressant, et pour le coup des expériences un peu extrêmes comme ont pu être la guerre et la résistance, qui sont des périodes qui m'ont intéressé, c'est en situation extrême que se révèlent les choses. Moi, le déclaratif, vous en rendez peut-être compte, j'ai un peu de mal à asséner des choses. C'est-à-dire qu'un artiste qui a un point de vue pertinent et intéressant sur le monde, si quand il arrive dans une salle, il est capable de mépriser ou de ne pas saluer le technicien ou peu importe, voilà, ça me laisse un peu froid tout ça.
Et du coup, puisqu'on est dans toute cette thématique un peu aussi, on parle d'engagement, t'en as parlé avant, puis t'as aussi cité des auteurs, des philosophes, et qu'on parle aussi de toi, me demander un petit peu quels étaient tes lectures un petit peu, quelles sont les zones où tu aimes aller plonger le nez dans les bouquins, et de quelle manière aussi ces lectures-là nourrissent tes engagements et tes combats?
Alors mes lectures, ça c'est une chose déterminante, c'est un plaisir, mes lectures elles sont très très diverses. J'adore les polars. J'ai eu un vrai choc quand à 25 ans j'ai découvert un auteur comme Julien Gracq, dont je trouve le verbe magnifique. J'ai lu toute l'œuvre d'Albert Cohen sauf un livre, qui est le livre le plus connu de lui, qui est Belle du Seigneur. Et ça fait 20 ans que je n'arrive pas à le lire et que je sais pas quand est-ce que je lirai, parce que le jour où j'aurai lu Belle du Seigneur, je me dirai, putain, ça y est, j'ai lu toute l'œuvre d'Albert Cohen. Et donc, il y a un truc comme ça qui est un peu, c'est un peu à deux balles, mais voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a marqué. C'est vrai que j'aime aller me colter à des textes un peu intellectuels. J'ai une grande admiration pour Diderot. Parce que je trouve Diderot en tant qu'auteur, en tant que philosophe, mais aussi son travail sur l'encyclopédie, quelque chose qui m'a fasciné quand j'étais gamin. J'adorais voir les planches de l'encyclopédie. Je rêvais dessus, mais de manière incroyable. Et puis c'est cette œuvre qui a dû occuper Diderot pendant plus de 25 ans, je crois. C'est insensé ce travail. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui me nourrissent. Puis il y a quelqu'un qui nous a quitté cette année, la relativité, l'engagement. C'est quelqu'un qui s'appelle Georges Semprun. Moi qui étais militant assez jeune, assez engagé. Quand j'entendais Semprun parler de son engagement avec le Parti communiste en Espagne et tout, j'avais tendance à le regarder d'un peu haut, de toute mon arrogance stupide, à trouver que papy radotait un peu. Et puis voilà, parce que nous forcément on était plus révoltés, on était plus. Et puis dans les années, début des années 90, il a écrit un livre qui s'appelle L'écriture ou la vie. Et c'est son témoignage sur son expérience des camps de concentration, parce qu'il a été arrêté, il était résistant, il a été arrêté très jeune, il avait 18 ou 19 ans, je crois, et dans lequel il témoigne de ça. Et ce qu'il dit dans l'écriture ou la vie, c'est, il explique pourquoi il n'a pas pu, à la différence de Primo Levi, qui a écrit immédiatement après-guerre, si c'était un homme, il a eu besoin de ses 40 ou 50 ans de recul, parce qu'il dit que l'indicible, c'est pas ce qu'on peut pas dire, c'est ce qu'on peut pas entendre. Et moi, ce livre m'a marqué. Alors déjà, je me suis dit, j'étais vraiment un sacré petit merdeux d'avoir comme ça un peu pris de haut quelqu'un comme Semprun. Et puis, c'est un bouquin qui a changé ma vie. Voilà, c'est un exemple. Et Georges Semprun est mort cette année. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois sur une interview, et je me dis. C'est un plaisir. Voilà, donc les livres, beaucoup. Je suis un gros consommateur. Puis j'ai un rapport, alors, je ne sais pas si ça a à voir avec les origines. J'ai fréquenté un peu les bibliothèques, mais moi j'ai un rapport, j'ai besoin d'acheter les livres, j'ai besoin de les avoir. Donc c'est un peu le bordel dans mes maisons, mais voilà, ça c'est un truc. J'ai un rapport charnel et de possession, je les prête, hein. Il y en a que je perds régulièrement, mais j'aime bien les avoir.
Et du coup, j'ai envie de revenir sur un détail, hein, on va s'éloigner de tout ce que tu viens de dire, mais juste tu parlais de Albert Cohen et tu disais qu'il restait un livre que tu ne voulais pas lire de lui. Et je vois ce que tu veux dire, c'est un petit peu comme ce petit plaisir de dire que tu auras toujours ce plaisir plus tard de le découvrir, donc tu repousses, et question idiote, mais t'as pas peur de mourir sans avoir lu ce bouquin?
C'est pas idiot, j'en prends le risque. Tu sais, c'est marrant parce que... Allez, on va faire dans les clichés un peu démagos, J'adore bien bouffer, j'adore la bouffe et je garde toujours ce que je préfère pour la fin. Et ça, pour le coup, c'est un vrai rapport culturel. Je pense que le fait de commencer par manger ce qu'on aime, c'est qu'on sait qu'un moment peut s'arrêter et que voilà. Et c'est un peu ce rapport-là. Donc peut-être qu'un jour, je disparaîtrai avant d'avoir lu Albert Cohen, mais je me dis j'en garde un peu pour la bouche. Là, j'ai du mal à le faire tout de suite. Alors peut-être que le dessert il sera rance quand je voudrais le manger, mais au moins je me donne cet espoir.
Du coup, peut-être après, on va rebasculer sur un morceau de ton choix. Donc, c'est toi qui as fait ta playlist. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter maintenant?
Bah, du coup, pour rester courant, on écouterait bien Joe Strummer. Pour le coup, un rapport avec les Clash, on le retrouve. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est le dernier album qu'il a enregistré. Joe Strummer était très, très malade à l'époque. Il a repris une chanson de Bob Marley, donc vous voyez les reprises. Et cette chanson, c'est Redemption Song. Et ce que je trouve tendre et enfin émouvant, c'est que voilà, à 30 ans d'écart, un de ceux qui incarnait la révolte punk. Reprend un standard du reggae sur une mélodie plus douce qui parle de rédemption et donc voilà, c'est ces rapports de continuité dans l'engagement et en même temps de relativité des choses qui nous font, qui parfois nous amènent à sourire un peu sur nos vies.
Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom. 'Cause all I ever had, redemption songs. These songs of freedom.
Vous écoutez Radio Circa, c'est la carte blanche ce soir. Nous recevons Christophe Landin-Estournay qui est avec nous, qui est le président de Circa. Ça s'appelle Circa maintenant.
Absolument l'actualité.
Alors, on vous écoute depuis tout à l'heure. Avec quelques petites confidences sur votre parcours, un parcours déjà bien, bien, bien garni. Là, on vient d'écouter une musique, une mélodie. Il y a une beauté quand même dans, dans cette mélodie, dans cette musique aussi, qui est importante. Il y a bien sûr le texte, mais il y a également cette mélodie.
Ah, moi, je peux écouter des choses très, parfois très conceptuelles, mais j'ai un vrai plaisir, je sais pas si c'est un plaisir de midinette, mais j'ai un vrai plaisir à écouter de belles mélodies. J'aurais pu proposer Leonard Cohen ou Anthony Andrew Johnson, qui est un des chanteurs que j'ai aimé ces dernières années. Et puis bien sûr, par-dessus tout, moi, c'est David Bowie, donc je voulais le garder pour la fin. Mais voilà, donc oui, ces histoires de mélodies, ouais, j'aime bien ces plaisirs. Je roule beaucoup et j'écoute beaucoup de musique et voilà, j'aurai une playlist de mélodies peut-être faciles mais agréables. Moi, je considère comme belles. Ouais.
Il y a des choses intéressantes que vous découvrez aujourd'hui, parce que là on parle de monstres sacrés un petit peu.
Les journées faisant que 24 heures, c'est vrai que je suis assez boulimique de plein de choses, mais je peux pas tout suivre. Et puis ça me pensait, j'expliquais ça un jour, parce que j'enseigne un peu là, dans quelques facs. On parlait du piratage. J'expliquais, on faisait une critique de la dopie. Et puis on discutait avec les étudiants et à un moment ils m'ont interrogé en me disant on écoutait Les Belles Passantes tout à l'heure de Brassens. Il y a un jour dans ma vie où assez tôt j'ai réalisé que à mon grand dam toutes les femmes ne seraient pas amoureuses de moi dans ma vie, donc je m'y suis résolu et peut-être que pour envoyer à des lectures c'est Michel Serres, qui est avec qui j'ai en commun la passion du rugby. Michel Serres explique très bien que l'intérêt dans le sport, c'est la défaite. Parce qu'à un moment, ça nous confronte à nos finitudes, ça nous confronte à nos limites. Et si je reprends l'histoire de l'exemple et de la dopie, ce que j'expliquais, moi, j'ai beaucoup piraté pendant un moment. Puis un jour, j'ai regardé ce que j'écoutais en réalité. Et au final, sur les quelques, je sais pas, je vais avoir 10 ou 15 jours de musique enregistrée, et en réalité, il y a quelque chose. Donc, j'accepte, mais ça vaut pour mon boulot et pour ma vie en général. J'accepte l'imperfection de ma vie. C'est-à-dire que je ne pourrais pas tout connaître, je ne pourrais pas tout savoir. Et donc, j'assume ça. Et donc, pour répondre à la question sur la musique, c'est vrai que j'écoute beaucoup de choses surtout des choses que je connais. Ma fille m'ont fait découvrir régulièrement, mais c'est mutuel. Voilà, et un plaisir. Tiens, voilà une anecdote, puisque on est sur des cartes blanches perso. Un vrai plaisir pour moi, ça a été de retourner 30 ans après écouter Patti Smith, sauf que c'est ma fille qui avait pris les places et elle voulait y aller qu'avec moi, aucun de ses copains et moi aucun de mes potes. Voilà, on était juste tous les deux et moi je réécoutais. Les standards Patti Smith 30 ans après, sauf que j'avais une jeune fille de 20 ans à mes côtés et que ça, rien à dire.
Il y a des choses étonnantes, il y a Patti Smith, c'est vrai, on l'a vu ici au théâtre de la Ville à Hoche, elle était venue faire un concert assez extraordinaire. Et dans la chanson française également, il y a des exemples. Moi, je pense à Brigitte Fontaine. Je trouve ça très étonnant de voir une dame de son âge faire une chanson terrible sur les vieux. Et qui heurte encore la sensibilité de beaucoup avec une fraîcheur, une spontanéité extraordinaire.
Bah voilà, pour rester sur des trucs perso, moi j'aime bien le dernier album de Brigitte Fontaine parce qu'il y a plein de reprises et puis elle s'associe avec plein de personnes. Et puis c'est drôle parce que j'entendais des gens me parler l'autre toujours. Et puis ils disaient, ah ouais, tiens, elle a fait une reprise avec, je sais pas, il doit y avoir Arthur H.M. C'est ça. Et puis il y en a qu'un qu'on connaît pas, c'est Areski. Et moi, forcément, Brigitte Fontaine, c'est Areski et Higelin. Et par exemple, puisqu'on parlait, j'ai souvenir de concerts d'Higelin quand il venait de se séparer d'Areski et de Brigitte Fontaine. Et d'un concert très précis à la Bourse du Travail à Lyon. Le concert avait duré plus de 3 heures. Et à la fin, Higelin revenant au bout du quatrième, cinquième rappel, c'était à l'époque où la version d'Alerter les bébés en disque était longue, mais elle était beaucoup plus longue en concert. Et Higelin revenant vraiment à genoux en disant « Je vous adore, mais là c'est fini, je suis... » Il était littéralement épuisé, le concert. de mémoire, mais peut-être que j'enjolive parce que j'ai envie que ma vie ait été belle, mais je pense que ça avait duré pas loin de 4 heures. Voilà. Et Brigitte Fontaine, voilà, bah. Alors c'est facile de le dire maintenant, même si pendant des années j'ai plus du tout écouté Ariski et Fontaine. Et puis moi je trouve que j'aime bien la malice des vieux. On parlait de Michel Serre, je le connais pas, sauf que il y a un peu moins d'un an que ça, je l'ai vu il était dans une gare où je prenais le train et il était avec une jeune fille et il jouait comme un gamin à s'amuser à estimer la taille des gens de loin et c'était un vrai. Et je suis allé le voir à un moment et je lui dis, il était un peu surpris, je voulais juste vous dire merci. Alors il savait pas si c'était parce qu'il jouait et tout, et il me dit parce que j'ai un peu lu ce que vous avez écrit et merci pour ça, c'est tout. Et puis comme c'est pas c'est une star de la télé, il est pas forcément connu ou repéré. Mais je me dis, quand je vois la malice de ces gens qui ont des expériences de vie formidables, ouais, ça laisse de l'espoir, quoi. Enfin, Brigitte Fontaine ou Michel Serre.
Sur ces petits mots, cette petite note d'espoir, comme tu dis, Christophe, on va te remercier de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour ta carte blanche.
Bienvenue à vous.
Et puis, on va quand même se quitter en musique. On va peut-être finir par David Bowie,
pour
ton plaisir et le nôtre aussi. Donc, merci José, merci Anne. Et on vous donne rendez-vous demain à 19h à nouveau pour une nouvelle carte blanche. La soirée continue. Je vous rappelle que ce soir à 22h30, il y a un concert. Et honte à moi, je n'ai pas le nom du groupe. Mais voilà, je pense qu'il y aura du monde à la maison du festival. Merci à tous. Bonne soirée.
Guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar.